à tous et toutes et bienvenue dans l'émission Black Power, l'émission dédiée aux artistes africains et afrodescendants sur les ondes RDIWA 107.5 FM. Et pour cette nouvelle émission, je reçois en interview un artiste que j'adore, le DJ-producteur tunisien Azam B. Nomade dans l'âme, il navigue entre culture et discipline artistique. Influencé par l'Afro House et les musiques du monde, il nous invite à un voyage à travers des frontières sonores imaginaires où se mêlent le mysticisme des chants ruraux, la joie de vivre africaine et les rythmes vibrants de la musique électronique. Salut Azam, tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Ouais, ça va, super, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore ? Azam B, c'est qui ?
Alors, je suis directeur de la photo dans le cinéma. Donc, j'ai commencé mon parcours dans le cinéma, dans l'image. Et depuis 2016, j'ai commencé un parcours de DJ. J'ai plus mixé des musiques du monde, afro, les musiques ethniques. Et au bout d'un moment, j'arrivais pas à trouver assez de musique que j'ai envie de jouer. Du coup, je me suis mis à la prod et j'ai appris à faire mes propres morceaux. Et depuis, j'ai fait quelques sorties. J'ai sorti le premier EP qui s'appelle Afro Chewi avec Nival Yahiewi. Et après, j'ai commencé à faire de la production pour des spectacles de danse contemporaine avec Selim Safia. Et voilà, je suis actuellement en train de faire la création du deuxième spectacle.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours musical de tes débuts en Tunisie jusqu'à aujourd'hui et que tu me dises un peu voilà, ce qui t'a donné envie de commencer à mixer?
Bah, les débuts étaient liés à un très bon ami, Ali Mrabat, qui est un des DJ les plus importants de la scène tunisienne et qu'on a collectionné des musiques depuis très longtemps ensemble, depuis qu'on était plus jeunes. Moi, j'ai toujours fait mon parcours dans le cinéma et lui en tant que DJ, mais on a toujours gardé ce lien d'échange de musique, de recherche. J'ai commencé à lui faire plein de propositions, à mixer des choses ensemble et tout. Et à un moment, il m'a dit, bah, viens, je vais t'apprendre à mixer et je vais te programmer et après, tu vas faire ce que tu as envie de faire sur tes propres sets et tu me laisses tranquille. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Et Ali m'a appris vers 2016 à commencer un peu à me transmettre un peu les techniques de mix, comment gérer une soirée, une évolution de soirée. Et après, en fait, j'ai commencé à jouer avec Hogra, qui est aussi une figure importante dans la scène musicale en Tunisie et qui m'a donné une première chance dans un club, dans un beach bar plutôt. Et en fait, je m'ai donné 4 heures pour jouer vraiment en mode selecta des musiques que j'aime sans vraiment prendre la tête sur la technique de mix. Juste partager le genre de musique que j'aime. Du coup, j'ai joué du Ali Farka Touré, du Tina Riwen, toutes sortes de musiques qui nous font voyager à travers le monde, en Afrique. Et là, ce jour-là, sur ce beach bar, il y avait en fait les futurs créateurs d'un lieu qui s'appelle le Yuka, qui a été créé en 2016 et qui est devenu un des clubs les plus importants de Tunis pendant quelques années. Et en fait, ils ont discuté entre eux, ils ont dit, bah, voilà, ce gars-là qui est en train de mixer, bah, ça se voit que techniquement, il est super débutant, mais par contre, c'est vraiment l'âme du Yuka, c'est vraiment l'énergie, le voyage qu'on a envie de partager avec les gens. Et en fait, ils m'ont programmé pour l'ouverture le premier samedi du Yuka. Et donc, j'ai joué l'ouverture du Yuka et c'est avec le Yuka que j'ai commencé à jouer plus souvent. Et pendant plusieurs années, du coup, j'ai joué dans plein de lieux, un peu partout, entre Tunisie, Sousse, entre Tunis et Sousse, et d'autres lieux en Tunisie. Et après, commencer à jouer dans des festivals un peu plus importants, comme les Dunes électroniques dans le désert, au Fairground, ou sinon aussi, j'ai joué à Exit Festival en Serbie, 2, 3 ans plus tard. Et voilà.
Je sais que tu as trois passions. Tu as la passion du cinéma, donc tu disais, de la musique, mais il y a aussi le voyage. Et je crois que le voyage, c'est quelque chose d'important pour toi. Comment tes expériences de voyage, elles ont nourri ta musique?
Bah, en fait, mon approche avec la musique, en fait, ce qui m'a rapproché à la musique, c'est plus l'aspect voyage que l'aspect musical le pur. C'est-à-dire que j'ai jamais fait des études de musique, que je sais pas lire les notes, ou j'ai appris vraiment très tardivement les rythmes et les questions techniques et musicales. Ce qui m'a vraiment passionné depuis toujours, c'est le fait d'écouter des morceaux qui te font complètement sortir du lieu dans lequel tu es, de te retrouver dans des lieux des fois que tu connais ou des fois même que tu imagines. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de magique dans la musique, de pouvoir emmener des auditeurs vers d'autres lieux. Et en fait, ça rejoint un peu le cinéma aussi, parce que dans le cinéma aussi, on fait rêver les gens à travers l'image. En les sortant aussi un peu de leur monde réel et on les fait un peu voyager dans une histoire de fiction. Et la musique, en fait, sa force aussi, c'est de pouvoir sortir un peu les gens de leur moment présent réel et puis pouvoir les emmener un peu à travers le son vers des lieux imaginaires ou même des lieux lointains, quoi.
Où est-ce que tu emmènes voyager les gens en général?
Alors, très souvent en Afrique. Parce que les musiques en Afrique, ça m'a toujours apporté une énergie très positive, très très joyeuse, très très ancrée dans la terre. Et en fait, j'ai jamais fait ce choix. En fait, sincèrement, ça s'est fait de manière très naturelle. En fait, petit à petit, les morceaux que je sélectionne de plus en plus comme DJ, bah, allaient plus dans le sens de l'Afrique que dans d'autres régions dans le monde, parce que il y a une présence du rythme qui tient une certaine énergie. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup vibrer. Donc, le groove africain, enfin, c'est une tradition qui me touche beaucoup. Donc, c'est ça qui m'a poussé vers ça.
Ta musique, elle mélange des sonorités d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne souvent, et aussi des musiques du monde, donc tu disais. Comment choisis-tu les éléments traditionnels à intégrer et comment tu les maries à l'électro?
Oui, alors les choses qui ont commencé vraiment à se préciser quand j'ai commencé à faire de la production, quand j'ai commencé à produire mes propres morceaux, bah, c'est là où j'ai commencé à savoir de manière un peu plus claire ce que j'ai envie de créer. En fait, ça rejoint plusieurs éléments. Donc, il y a déjà au niveau de la rythmique, le son, le rythme, les rythmes africains, que ce soit utilisés avec des éléments traditionnels du djembé ou toutes sortes d'instruments acoustiques ou même les rythmiques africaines utilisées par des machines électroniques, bah c'est quelque chose que je trouve qui donne une énergie très stimulante et très groove qui met de belle énergie sur les scènes dans les clubs en fait dans les dance floors. Et ça c'est assez beau. Enfin, en tant que DJ, j'ai beaucoup joué les morceaux des Mo Black de toutes sortes de labels et de producteurs d'Afro House. Et ça a toujours été des moments de grande joie et de fédérer les gens qui dansent en face. Ça a toujours très bien marché. Et donc ça, c'est le premier élément. Il y a aussi au niveau du chant. Je suis très touché par les chants qui viennent du nord-ouest tunisien, que ce soit les chants chewi, les chants emezir, toutes sortes de régions en Tunisie. Et en ça, il y a quelques chanteurs comme Deval Yahyaoui, comme Mounir Troudi, qui travaillent sur le vieux patrimoine des chants des montagnes en Tunisie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et après, en fait, le fait de mélanger aussi la musique, les rythmiques afro avec les chants Et oui, de l'Afrique du Nord, bah c'est pour moi aussi une position politique aussi, c'est de replacer un peu les chants qu'on chante en Tunisie dans un contexte africain et non pas dans un contexte arabe, parce qu'on a souvent tendance à nous mettre dans la case de la musique arabe, alors que on peut parler arabe, mais aussi les racines africaines dans notre culture et dans notre musique est bien présente. Et donc pour moi, c'est l'occasion aussi de mélanger des chants arabo-berbères avec des rythmiques africaines. C'est une manière aussi de travailler sur les différentes appartenances qu'on a en Tunisie, entre autres. Et donc tout ça, c'est mélangé aussi avec une certaine production électronique. Inspiré souvent par la tech house ou par la techno. Et voilà.
On s'était eu un petit peu avant l'interview. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de gens qui t'associaient souvent à la musique arabe alors que tu faisais de l'afro house. Et aussi que parce que tu n'étais pas noire, du coup, on t'associait souvent plus à la musique arabe. Tu mettais aussi en avant le fait que souvent, pour les gens, la Tunisie ne faisait pas partie de l'Afrique. Comment tu navigues avec ces stéréotypes et à la fois pour revendiquer ton identité africaine?
Bah, c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai jamais pensé avant de revenir en France en 2020, parce que je suis revenu en France là depuis quelques années. Donc quand je jouais en Tunisie entre 2016 et 2019, bah, je me suis petit à petit un peu spécialisé un peu dans cet univers afro et qui a apporté quelque chose qui n'est pas souvent écouté en Tunisie. Donc du coup, ça a participé aussi dans ma montée aussi dans le DJing. Donc c'était cool, c'était un peu j'ai trouvé un peu ma patte. Et après, quand je suis revenu en France en 2020, bah, du coup après le Covid, du coup je connaissais pas grand monde en France. Bah, souvent, en fait, on m'a programmé, on m'a pris de manière naturelle dans un contexte de producteur arabe ou de DJ arabe, ce que je le suis aussi. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas arabe, mais c'est juste que je ne suis pas que arabe. Je peux être de Tunisien et jouer de la musique afro et non pas forcément jouer de la musique arabe pop ou que ce soit les musiques qui sont plus écoutées par les Arabes de France ou que ce soit les musiques qui sont plus écoutées dans le monde arabe. Donc du coup c'était un peu j'ai eu du mal à défendre un peu mon identité musicale afro. Et c'est vrai que quand tu n'es pas de peau noire, ça n'aide pas trop à casser les stéréotypes. Donc c'est curieux comme question. Mais...
Ah, tu l'as trouvée curieuse la question?
Comment?
Tu trouvais la question curieuse?
Oui, bah c'est curieux parce qu'en fait c'est pas forcément les raisons que je suis en train de dire. Mais après c'est plus des choix de facilité. Bah il est tunisien, bah on va lui mettre dans un événement arabe et puis du coup après on est un peu surpris. Bah tiens, ah oui, mais en fait il joue pas de la musique égyptienne, il est plus dans les musiques du Côte d'Ivoire et du coup c'est un peu bizarre. Bah oui, bah il faut juste faire l'effort d'écouter ce que je fais déjà. Donc
Mais clairement. Et justement,
ouais.
moi, j'aimerais que tu redéfinisses, c'est quoi la musique que tu fais, toi?
J'ai du mal à définir de manière précise un genre musical parce que enfin justement en fait que surtout quand je suis DJ, j'essaie d'être très éclectique, d'être un peu imprévisible aussi des fois avec certaines sonorités qui font voyager de manière pas forcément claire, d'aller un peu sur des sonorités qui partent vers l'Orient, qui reviennent vers l'Afrique et qui remontent vers le Nord. Donc c'est aussi une volonté d'être éclectique dans le genre de musique que je joue, mais il y a quand même une base omniprésente, enfin qui est l'afro, qui est la musique, qui est le groove, qui est l'énergie des rythmes africains. Je pense que c'est ça qui pourrait être la ligne principale. Et autour de ça, bah, de temps en temps, je peux retrouver des sonorités complètement orientales dans le monde arabe d'Orient ou dans des endroits plus lointains et revenir vers le rythme afro très énergétique, très dansant, quoi.
Des artistes africains ou des labels que tu as rencontrés dans ton parcours et qui ont influencé ta musique?
Alors des producteurs, c'est pas les rencontres de producteurs qui m'a le plus marqué, mais très souvent c'est des rencontres de musiciens traditionnels que je rencontre à travers des voyages, que ce soit j'étais à Bamako ou à Abidjan et j'ai pu rencontrer des musiciens incroyables de que ce soit de percussion, de kora, de ngoni et du coup j'ai pu faire des séances d'enregistrement chez eux dans leur maison et c'était des rencontres humainement incroyables. Donc c'est plus ce genre de rencontres qui m'ont marqué et qui m'ont et de tenir à partir de cette rencontre humaine, d'essayer d'en sortir quelque chose d'artistique et de musical. Et donc du coup, je continue un peu sur cette voie à travers les voyages, que ce soit en Tunisie d'ailleurs ou un peu partout en Afrique ou ailleurs, c'est d'essayer souvent de rencontrer pas forcément les musiciens reconnus, professionnels qui jouent sur des scènes, mais qui soient plus des gens qui sont à moitié des professionnels, qui sont un peu des gens dans leur coin, dans leur village, en paix, loin du système, et puis essayer de leur rendre hommage, de travailler avec eux pour chercher des sons qui sont pas forcément conforme à ce qu'on est censé produire dans l'industrie. Donc du coup, c'est ces rencontres-là, à la fois humaines, à la fois des rencontres de voyage, qui m'inspirent.
Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une volonté de faire le lien entre justement la musique traditionnelle et aujourd'hui, en fait, et la modernité? Est-ce qu'il y a ce désir-là dans ta musique?
Oui, après, moi, je ne suis pas en position de promouvoir la tradition, je ne suis pas dans ça.
Ok.
Mais je travaille avec la tradition pour faire quelque chose d'actuel, quoi. En gros, c'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que très souvent, d'ailleurs, la difficulté dans les séances d'enregistrement avec des musiciens traditionnels, c'est que tout de suite, ils veulent me jouer les choses telles qu'ils devraient être jouées selon la tradition et le patrimoine et tout. Évidemment, je laisse exprimer ce besoin, cette envie. Et après, au-delà de ça, on va chercher à partir de ces sonorités traditionnelles, de les jouer ou de les exploiter pour trouver des nouveaux sons, des nouvelles manières de jouer qui peuvent être compatibles avec la production électronique actuelle. Et donc ça, généralement, ça prend un peu de temps dans une rencontre. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est là où il y a une vraie rencontre. Parce que très souvent, au début, un musicien traditionnel va me montrer toute une panoplie des choses qui sont très respectueuses de la tradition et tout. Et après, on va ensemble dans la direction de déconstruire un peu ces codes qui sont déjà établis pour aller chercher des nouvelles choses. Et travailler ensemble sur des choses comme ça, c'est passionnant.
Et ton album Afro-Chaoui, qui est sorti en 2022 sur le label Chouka, est-ce qu'il a été construit et pensé dans cette même optique?
Alors oui, il y avait un peu de ça, mais Afro-Chaoui, c'est mon tout premier album, je crois que j'ai pris 3-4 ans pour le faire. En fait, c'est l'album sur lequel j'ai appris, en fait. Donc même la production, il y a 3 morceaux originaux et après 3 remixes. Et en fait, mes morceaux originaux, déjà, je les ai refaits une dizaine de fois, je crois, à partir de zéro, parce qu'en fait, c'est l'album avec lequel j'ai appris à faire de la production. Donc, je suis passé par toutes sortes de démarches, par toutes sortes de cheminements pour arriver. Donc sur ce premier album, j'ai pas suivi vraiment une démarche claire. J'étais un peu perdu, et puis petit à petit, les choses se sont construites. Il y avait des morceaux qui étaient un peu plus clairs dans leur démarche, Le morceau Schmissa, par exemple, c'est un morceau que j'ai créé spécialement pour les dunes électroniques, pour quand je jouais au festival des dunes électroniques. En fait, c'est un
Ok.
festival dans lequel il y a 30 heures de musique et moi, on m'a programmé à 7 heures du matin à l'aube. Et donc du coup je devais reprendre les gens qui écoutaient de la techno depuis 15 heures déjà et au moment du lever de soleil donc fallait un morceau pour le moment du lever de soleil pour accompagner l'atterrissage de cette foule qui écoutait de la techno depuis plusieurs heures et donc Schmissa par exemple a été créé dans ce contexte-là et a été joué dans les dunes électroniques au moment de l'aube. Les autres morceaux ont été faits par des cheminements un peu bizarres, quoi.
Et justement, avec qui tu as collaboré sur ces morceaux?
Afro Chewi, le collaborateur principal, c'est Nival Yahyewi, qui est le chanteur. Et la rencontre avec Nival était incroyable parce qu'elle venait d'un projet. En fait, Nival, avec le producteur Sofiane Ben Youssef, qui à Amar 808, ils ont fait un projet quelques années auparavant qui s'appelle Bargo 08. Et pour moi, c'est ce projet-là, quand je les ai
Projet
vus, moi je
magnifique
connais,
d'ailleurs.
c'est un projet extraordinaire, on est d'accord.
Magnifique, ouais.
Et en fait, quand ils ont fait Bargo 08, en fait, moi, je n'y connais rien en production. Je commençais à peine à faire du DJing et j'étais tellement impressionné par la ligne artistique de ce projet, par les choses, comment ils ont fait les choses, que c'est devenu vraiment ma référence et c'est un peu le projet qui m'a donné envie vraiment d'aller creuser, d'aller vers la production et pouvoir faire mes propres métissages de musique tels qu'ils l'ont fait. Et donc du coup, je rencontre Nival à Tunis et je lui demande est-ce que je pourrais faire une petite session de studio avec toi pour enregistrer je lui ai juste demandé au début de me faire des sortes de nappes de voix qui m'aideraient à commencer à faire de la production. Et quand on est rentré en studio, il était extrêmement généreux. Il m'a fait enregistrer 3 ou 4 morceaux. Et il m'a dit, tu en fais ce que tu veux, vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, tout ce que je lui ai demandé, il m'a chanté tout ce que je lui ai demandé. C'était vraiment
C'est
une
sa voix
rencontre
qu'on entend
incroyable.
sur le morceau Afro Chaoui.
Oui, c'est lui qui chante sur tous les morceaux. Et donc, c'est à partir, du coup, le fait que Nival m'a donné cette matière, ça m'a mis la pression pour continuer dans cette voie et puis finaliser quelque chose qui est devenu un EP après. C'est des rencontres aussi qui te poussent aussi à avancer, ce qui était mon cas, quoi. Et donc après que j'ai avancé un peu sur la production, ben j'ai toujours été attiré par le groove des rythmes afro, et du coup c'est là où j'ai pu rencontrer Abdullah Traoré à Tunis, qui est un professeur de percussion qui vit à Tunis, et avec lui aussi j'ai fait une session d'enregistrement de djembé qui a apporté ce gros groove et ce côté afro dans la musique. Et puis après, évidemment, il y avait besoin de gasba. Et du coup, après Abdullah, bah du coup j'ai pu rencontrer Mohamed Ben Salha, qui est un excellent musicien et qui avec qui on a enregistré la gasba.
C'est toi aussi qui as réalisé le clip magnifique d'Afro Chaoui.
Et ben le clip aussi, c'est aussi une rencontre avec Mohamed Aissewi, qui est un danseur qui travaille sur la danse populaire.
C'est le danseur qu'on voit dans le clip.
Exactement, exactement.
Magnifique Mohamed garçon Aissewi, d'ailleurs.
C'est un danseur qui fait de belles choses en ce moment d'ailleurs. Donc du coup, Mohamed, il travaille sur le chant, sur la danse populaire. Et en même temps, c'est quelqu'un qu'on croise dans les teufs techno de Tunis, dans les clubs et tout. Et donc, il a cette double culture dans son corps. Je lui ai demandé de jouer la moitié haute de son corps comme un teufeur techno et la moitié basse de son corps comme un pas de danse traditionnel. Et donc, du coup, on le voit dans le clip.
Ouais, c'est ça qui donne cette espèce d'énergie presque un peu volatile.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est son corps, en fait, ce qui était très difficile d'ailleurs pour lui de jouer, parce que son corps, en fait, il y a les pieds qui étaient dans la danse traditionnelle, et puis les mains et le haut du corps qui étaient dans la vibration d'un fêtard techno. Donc il a essayé un peu de retrouver ces deux énergies dans son corps, et donc c'était aussi une belle expérience. On a fait ça en un dimanche, hein, donc on est allé d'ailleurs dans sa région, parce qu'il est aussi originaire du Kef, et on a tourné dans son propre village, donc c'était aussi émouvant pour lui aussi.
Cet album, il a été aussi produit sur le label Chouka. Qu'est-ce qui t'a amené à te rapprocher de ce label?
Bah, Chouka, c'est devenu ma famille depuis, parce qu'en fait c'est une rencontre qui s'est faite à travers Nessim Zridi, qui est un des cofondateurs de Chouka, et avec qui, enfin qui est aussi un DJ afro et musique du monde basé à Lyon, et on a souvent joué ensemble à Tunis dans des clubs, on a fait du B2B ensemble sur certaines soirées, donc on s'est pas mal rapprochés. Et quand je lui ai parlé de mes morceaux que j'étais en train de finir, évidemment je connais le label Chouka, qui réunit beaucoup des artistes que j'admire, qui viennent du Maghreb, du Sud, et qui se produisent en Europe. Donc c'est un peu la vocation de Chouka, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce label. Et donc du coup, quand je lui parlais de mes morceaux, bah il m'a mis en contact avec Emine, qui dirigeait le label, puis plus tard avec Khalil et puis j'ai été super bien accueilli dans ce label, et surtout dans un rapport de transparence et de sincérité.
Ok, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais j'ai envie d'insister un peu sur ce point-là. Voilà, tu disais que ta musique, elle avait une dimension politique, et tu disais aussi, moi, parfois, dans mes sets, je mets des clins d'œil politiques et poétiques. Il y a peut-être 1% des gens qui écoutent qui s'en aperçoivent, et les autres passent à côté. Mais du coup, c'est quoi ces clins d'œil politiques que tu insères dans ta musique?
C'est comme tu le dis, c'est vraiment des clins d'œil. Hein. Je ne me proclame pas du tout militant, ou je ne suis pas du tout dans le militantisme politique, non, mais en fait là le but quand je joue dans une soirée, c'est vraiment de fédérer les gens, d'être prêt.
Le festif est fédérateur, peut être aussi une forme politique d'après moi.
Oui, déjà, exactement. Oui, il y a déjà,
mais ça, c'est la base. Quelque chose de...
Oui, bon, ça, c'est la base, ça, ouais. C'est la base. Mais en milieu de ça, de temps en temps, par exemple, quand je joue face à des Tunisiens, par exemple, bah, il y a des petits samples, des petits messages d'un poète tunisien, par exemple, Sraïr Ouled Ahmed, qui a dit des choses très importantes à des moments précis de la révolution tunisienne que des fois juste un petit sample comme ça de 10 secondes qui passe au milieu de la musique, ça va titiller certaines consciences et ça, je trouve ça beau. De temps en temps, dans une foule comme ça, t'as une tête ou deux qui sortent un peu de la foule et qui te fait le signe que, ah oui, j'ai saisi ton message et ça fait plaisir. Des fois, ça peut être des poésies de Mahmoud Darwish ou des petits voilà des petits clins d'œil souvent poétiques mais avec un sens politique quoi.
Tu as contribué à la série documentaire Off the Map, donc du magazine Pan-African Music. Alors juste pour rappeler aux auditeurs et auditrices, c'est des documentaires qui nous amènent à la découverte d'artistes du Kinshasa au Caire, en passant par Johannesburg et Casablanca. Et au travers de ces documentaires, on découvre aussi le processus de création des artistes. Et je voulais savoir que t'a apporté cette expérience.
Déjà, cette expérience était dans le cadre de mon autre travail qui est dans le visuel, parce que je fais aussi de l'étalonnage dans la post-production, dans le cinéma et l'audiovisuel. Et donc, c'est comme ça que j'ai été approché par PAM. Et du coup, quand ils m'ont présenté la série sur laquelle on a travaillé ensemble, j'étais, je veux dire, là, c'est pas du boulot, quoi. Là, pour moi, c'est du pur plaisir, en plus que ça soit du boulot. Donc, du coup, j'ai passé, sur les 2 saisons, j'ai travaillé avec l'équipe de PAM sur l'étalonnage de tous les épisodes de la série, et c'était pour moi non pas
Juste, tu peux nous
que.
redire ce que c'est étalonnage?
L'étalonnage, c'est la correction des couleurs après le montage. C'est-à-dire, une fois le montage est fini, c'est un peu retrouver, améliorer un peu les couleurs de prise de vue des images. C'est la finalisation de l'image, en gros. En fait, ça fait partie un peu de mon travail de directeur photo dans le cinéma. Et comme je fais ce genre de prestations, ça rejoint l'utile à l'agréable, le professionnel, la musique, la passion, tout s'est un peu rejoint. Et après, avec l'équipe de PAM, on a travaillé ensemble pendant 2 ans, qui était juste une expérience extrêmement agréable et surtout j'en ai appris beaucoup de cette expérience parce que quand j'étalonne les mini-documentaires, en fait, pour moi, ça me faisait aussi découvrir ces artistes un peu partout en Afrique.
Et parmi ces artistes que tu as découverts, est-ce qu'il y en a un qui a été plus percutant que les autres?
Forcément, il y a mon ami Khalil Epi qui, quand il a fait le projet Aïchoucha, d'ailleurs, le documentaire est réalisé par Fatma Papouna, qui aussi a fait partie de l'équipe. Khalil, j'ai aussi participé avec lui dans la post-production de son projet Aïchoucha. Je vous rappelle, Aïchoucha, c'est un concert de musique électronique avec de l'image vidéo, avec de l'image immersive. Il a un peu traversé toute la Tunisie dans les zones les plus reculés pour enregistrer des sons du patrimoine, des gens qui chantaient de la musique traditionnelle. Et il a retravaillé ça avec la musique électronique et en travaillant aussi avec l'image projetée à 360. J'ai eu vraiment la chance de travailler avec lui sur la partie image de son projet. Et ça aussi, ça fait partie des projets qui me font rêver. Donc en plus de Barguzeroui, il y a Aïchoucha de Khalil Epi, ça c'est 2 projets que je garde dans ma tête comme des projets de référence, en espérant un jour faire quelque chose qui se rapproche un peu de cette beauté-là, quoi.
Et j'avais aussi envie de poser quelques questions par rapport au cinéma. Tu es directeur photo sur plusieurs films et j'aurais voulu savoir sur combien de films tu as travaillé et aussi s'il y a un film dont tu veux nous parler.
Alors dans le cinéma, on est choisi, on n'a pas toujours le contrôle sur les films qu'on a envie de faire. Mais j'ai quand même la chance d'être choisi aussi par des réalisateurs que j'aime beaucoup, comme Youssef Chebbi, comme Emin Sidi Boumedine. C'est des réalisateurs qui sont un peu dans une approche différente par rapport à tout le cinéma qu'on fait en Afrique du Nord, que ce soit en Tunisie ou en Algérie. Et donc, par exemple, avec Youssef Chebbi, on a fait le film Ashkel, l'enquête de Tunis, qui était quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2022, je crois. Et depuis, je viens de finir d'ailleurs le tournage du nouveau long métrage d'Emin Sidi Boumedine, qui est un super réalisateur qui a fait le film Abou Layla il y a quelques années. Et donc là, il est en train de finir son nouveau film dont j'ai eu la chance de faire l'image. Donc c'est mon parcours de cinéma qui continue. Voilà, j'essaie de saisir les chances qu'on propose en faisant quelques choix aussi qui m'amènent un peu vers le cinéma que j'aime le plus, quoi.
Tu as aussi récemment composé la musique originale pour El Boutinière. Et moi, j'avais envie que tu nous parles un peu de ce projet et ce qu'il représente pour toi aussi.
Alors, El Boutinière, c'était une merveilleuse rencontre avec Selim Ben Safia qui m'a proposé de faire la musique de sa pièce, qui est un peu un fantasme d'un cabaret populaire dans les rues de Tunis, un cabaret que lui, il a connu très jeune, mais il n'est jamais rentré dedans. Et du coup, voilà, quand il a grandi et est devenu un chorégraphe, bah, il a voulu imaginer tout ce qu'il y avait dans ce cabaret, mais il a imaginé ça sur sa propre scène. Et donc, du coup, le rejoindre dans cette expérience, c'était incroyable. En plus, j'ai jamais fait de la création musicale pour la danse contemporaine, donc j'ai stressé comme pas possible. Quand il m'a proposé ça, il était extrêmement rassurant. Il m'a dit, je t'ai choisi pour faire exactement ce que tu fais déjà et non pas pour faire quelque chose de différent. Et donc du coup, ça m'a un peu rassuré. Et puis petit à petit, je suis rentré un peu dans l'univers de la pièce. Et même si on était plus dans la musique arabe pop, vraiment pop des cabarets de Tunis, que dans la musique afro, mais c'est quelque chose qui m'a stimulé au bout d'un moment et on a pu enfin, j'ai pu faire des collaborations aussi très intéressantes avec Raza Mizrani, avec Eslem Jmeri, qui sont des chanteurs, et Eslem joue du oud aussi, le luth. Et donc, on a travaillé ensemble pour faire quelque chose qui a très bien marché, en tout cas dans la pièce, et qui nous a permis de tourner avec la pièce un peu partout dans le monde pendant 2 ans.
Est-ce que tu travailles avec Selim, sur une nouvelle pièce?
Bah là, justement, on vient de commencer cette semaine là, une nouvelle création. D'une nouvelle pièce qui s'appelle L'Ebès, qui sera sur le thème de la résilience. Et là, j'ai vraiment de la chance de travailler avec Marie-Suzanne Deloye, qui est une incroyable musicienne qui joue du viola. Et on travaille ensemble pour la nouvelle création de musique sur la pièce. Super content parce que là, c'est encore un nouveau challenge artistique, c'est encore un nouvel univers. Un instrument que je connaissais pas du tout, que j'ai commencé à découvrir en rencontrant Marie-Suzanne et puis en travaillant ensemble. Du coup, on essaye un peu d'aller chercher des sonorités qui sont pas habituelles et du coup là, je suis en plein travail dedans. Je suis juste super heureux, quoi.
Et du coup, pour terminer, j'avais envie de savoir un peu quels étaient tes projets à venir, que ce soit en musique, en cinéma ou ailleurs. Bon, tu nous as parlé de la pièce de théâtre, mais est-ce qu'il y a d'autres projets en devenir?
Alors là, principalement, j'ai la tête dans le guidon pour la nouvelle pièce de Céline qui me prend déjà tout mon esprit là en ce moment. Après, j'ai un projet de rêve, commence un peu à le préparer, à le clarifier, qui serait, je pourrais pas en dire plus, mais qui serait un peu un projet dans lequel se rejoignent l'image, la musique et le voyage. Et ça serait vraiment mon plus grand bonheur de faire quelque chose d'artistique qui réunit ces 3 passions. C'est vrai.
Du coup, je voulais savoir, c'est le moment du mix et je voulais savoir qu'est-ce que tu nous avais préparé de beau et où est-ce qu'on va voyager?
Eh ben, la recette magique, c'est du groove, du voyage ethnique et des sonorités éclectiques et improbables. Voilà, je vous laisse écouter.
Je voulais savoir, sur quels réseaux sociaux, on peut te suivre?
Sur Azembe, sur Instagram, souvent je publie tout ça. Et puis, il y a mes mix un peu sur Mixcloud.
Ouais.
Et puis, il y a mes sorties d'albums sur toutes les plateformes et préféré évidemment Bandcamp parce que c'est la seule plateforme qui rémunère ses artistes.
Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose?
Eh ben, merci pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir de discuter de tout ça. Et puis, grand bravo pour votre radio, pour votre travail. C'est génial que vous mettez en valeur tous ces bons artistes que je vous ai vu inviter. C'est super.
Bah, merci beaucoup. Un grand merci pour ta présence et puis ton album Afro Chaouie qui est quand même à tourner pendant des mois dans ma bagnole, je tiens à le préciser.
Ça fait plaisir. Merci.
Et ben super, et ben merci beaucoup et je te dis bah à bientôt et
À
place au
bientôt.
mix.
bane wala sangara genni kura gonna nyuma yani biko sawala sangara genni kura gonna nyuma yani kuma mawala misal kemola di mamari li moni lila
Magia buona dimmi chi lo sa ne va quando vuole che ti dia buona.
Se me lo para que va a matar para nunca.
C'était Black Power sur RDWA. À très bientôt!